Voilà, bonsoir à chacun. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'Évangile de Jean et le chapitre 4. Jean chapitre 4, et on va lire à partir du verset 4. Il est question de Jésus, et on lit ceci au verset 4. « Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. » Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits, c'était environ la sixième heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire !» Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit « Comment ? Toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Jésus lui répondit « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est ?» Celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive ? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux ?» Jésus lui répondit « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. » Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » « Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. » La femme répondit, « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit, « Tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu cinq maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu dis vrai. » Seigneur, lui dit la femme, « Je vois. » « Que tu es un prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites-vous que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » Femme, lui dit Jésus, « Crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit. » Et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Là-dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, « Que demandes-tu ? Ou pourquoi lui parles-tu ? » Alors la femme ayant laissé sa cruche s'en alla dans la ville et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ ?» Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Pendant ce temps, les disciples pressaient de manger, disant, « Rabbi, mange !» Mais il leur dit, « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient donc les uns aux autres, « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Jésus leur dit, « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Amen. Amen. C'est un passage qui est bien connu. Vous avez sûrement déjà entendu parler de ce passage ou entendu quelqu'un d'autre vous parler de ce passage. Ce soir, je n'ai pas la prétention de vous apprendre quelque chose de plus, si ce n'est simplement de vous annoncer ce que la Bible dit, l'Évangile, vous annoncer et s'arrêter particulièrement sur ce verset qui, je pense, est le verset central. C'est un moment où il y a quelque chose qui se passe au moment où Jésus prononce cette parole, et c'est au verset 10, quand Jésus répond à la Samaritaine, « Si tu connaissais le don de Dieu, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », alors tu lui aurais toi-même demandé à boire. » Je pense que ce verset, c'est le centre de cette histoire. Parce qu'à ce moment-là, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe dans le cœur de cette femme, mais on va le voir ensemble. Mais premièrement, je voudrais vous dire, si ce verset c'est le centre, je voudrais simplement qu'on discute par rapport à ce qu'il contient, c'est-à-dire le fait que Jésus a prononcé ces mots, si tu connaissais le don de Dieu. Qu'est-ce que le don de Dieu ? J'aimerais qu'on voit ensemble que le don de Dieu, il commence par une rencontre, après il y a un renversement des rôles qui se passe, et après on peut goûter aux réserves que Dieu veut donner aux hommes. Et on va voir premièrement une rencontre. Et la rencontre, elle est simple, Il s'agit d'une rencontre entre un homme et une femme. Et je vais simplement décrire ce qui se passe, et peut-être ajouter quelques détails par-ci par-là. Première chose, la femme en question, c'est une Samaritaine. Et ce qu'il y a de particulier, c'est qu'elle a accès à une source, à un puits, et elle y a accès parce que justement elle est Samaritaine, et parce que le puits se trouve dans son territoire. On est d'accord ? C'est le puits de Jacob. Jacob, il a creusé un puits à cet endroit. Il a trouvé une source d'eau qui a alimenté ce puits. Il en a bu et puis il a donné ce terrain à son fils. Et au fur et à mesure de l'histoire, les Samaritains se sont installés à cet endroit-là. J'expliquerai plus tard l'origine des Samaritains en eux-mêmes. Mais ce qu'on sait, c'est qu'ils habitent dans ce lieu. Près de la montagne, d'ailleurs, ils avaient une montagne dont il est question, on l'a lu, où ils allaient adorer. Et cette femme, elle a accès à cette source d'eau à cause de son origine. Et je dirais que cette source d'eau, ce puits, c'est le don de Jacob. D'ailleurs, Jacob a donné, entre autres, le terrain et la source d'eau à son fils. Et maintenant, elle bénéficie du don de Jacob. Vous allez voir plus tard pourquoi j'insiste sur ce mot. Deuxième chose, elle a de quoi puiser dans le puits. On est d'accord? Si vous ne me croyez pas, d'ailleurs, il est dit quand elle retourne à la ville, elle a laissé sa cruche. Donc c'était la cruche qu'elle utilisait pour remplir. Sûrement qu'elle devait l'attacher à une corde, puisqu'elle a dit que le puits est profond. Donc elle n'a pas dû se suspendre par les pieds pour y aller. Non, elle a sûrement, logiquement, mis une corde, lancé la cruche, puiser, etc. Elle avait tout ce qu'il fallait. Elle avait l'ustensile, elle avait la jarre, ou je ne sais plus comment c'est dit, pour puiser. Troisième chose qui caractérise cette femme, elle adore sur une montagne, qui n'est pas la montagne près de Jérusalem. Et Jésus, il précise ça, elle adore sans connaître. Elle adore par tradition. Elle fait toutes sortes de choses religieuses, mais elle ne sait pas ce qui se cache derrière. Il faut savoir que les Samaritains, à un moment donné, ce sont les Assyriens qui ont déporté donc tout le peuple d'Israël, en particulier ceux qui étaient là, même s'il en a resté quelques-uns. Et les Samaritains, ils descendent de ces personnes qui sont restées là et d'autres personnes que les Assyriens ont voulu mettre, ont imposé, vous allez coloniser ce pays. Et donc ils sont arrivés en Samarie et ils se sont mélangés avec les personnes, les Israélites qui étaient là. Et ils ont donc ils se sont mariés entre eux, etc. Ils ont apporté leur culture aussi, ils ont apporté leurs idoles. Et il faut savoir que ils ont demandé à un prêtre israélite d'aller en Samarie à ce moment-là pour leur inculquer la connaissance du vrai Dieu, du Dieu du pays comme il l'appelait, parce que les personnes qui se sont installées, ils étaient attaqués par des bêtes sauvages, etc. Vous lirez ça dans les chroniques. Et donc il y a eu toutes sortes de problèmes. Et donc ils ont dit, envoyez-nous un prêtre israélite qui nous apprenne comment connaître le vrai Dieu. Et du coup, ils ont choisi le mont, alors je crois que c'est le mont Garizim, la montagne dont il est question. Ils ont choisi ce mont-là et ils ont reproduit ce que les Juifs faisaient à Jérusalem. Sauf que ils ont donc sacrifié des animaux, ils ont fait toutes sortes de choses, respecté la Torah, etc., les cinq premiers livres de la Bible. Ils ont fait toutes ces choses-là, mais ils ont gardé leurs idoles. Et tous les autres lieux, ils faisaient des autels pour leurs idoles. Et c'est même précisé que certains, à cause du culte de leur Dieu, ils étaient obligés de brûler leurs enfants, le faire passer par le feu pour vouer un culte à leurs idoles. Et ils faisaient ça tout en faisant à côté toutes sortes d'autres choses. Alors au moment où cette femme est là, cette Samaritaine, ces choses ont disparu. Mais il y a toujours cet état d'esprit qu'on fait la tradition, on fait toutes sortes de choses imposées sans vraiment comprendre ce qu'il en retourne. Et Jésus dit, le salut vient des Juifs. Cette femme, c'est une femme. Je ne vous apprends rien, mais je vais vous expliquer pourquoi je dis ça. C'est une femme, et Jésus se permet d'aller lui parler, Déjà, entre qu'un juif aille voir une juive, c'était quelque chose de très spécial. Mais qu'un juif aille voir une femme, et en plus une samaritaine, c'était quelque chose d'impossible à penser, parce que, à cause de ce passé tumultueux, les samaritains se proclamaient les dignes fils d'Abraham, et les juifs disaient, non mais non, c'est nous qui sommes les juifs. Et il y avait cette rivalité qui était là, et à un moment donné même, les samaritains, ils ont construit un temple pour rivaliser avec le temple de Jérusalem. Et ils faisaient toutes sortes de sacrifices, et il faut savoir qu'encore aujourd'hui, il y a des samaritains qui existent. Ils sont beaucoup moins nombreux qu'à l'époque, mais encore aujourd'hui, je regardais ça tout à l'heure, et il montrait des sacrifices d'animaux qui ont encore lieu aujourd'hui sur ce mont-là. La ville en question, c'est Naplouse. Naplouse en Cisjordanie, c'est cette ville qui s'apparente à Sichem. Et imaginons maintenant le côté de Jésus. Jésus, il est en route, je ne sais pas si on l'a lu, il quitta la Judée et retourna en Galilée. Il était à Jérusalem. Maintenant, il va, on va dire qu'il retourne déjà à Nazareth. Après, la Bible nous dit qu'il est allé à Capernaum, qu'il est allé à toutes sortes d'endroits, à Cana, il est retourné à Cana. Et j'ai pris cet exemple. Jérusalem à Nazareth, il y a une centaine de kilomètres. Tout droit, ça passe par la Samarie qui est en plein milieu. Et Sichar ou Sichem, comme on l'appelle, ça se trouve à environ la moitié du chemin. Et c'est à cet endroit-là, que Jésus s'arrête. Et pourquoi il s'arrête? Parce qu'il est fatigué par la route. Imaginez, je prends des exemples concrets d'aujourd'hui, mais que vous partiez de Toulouse, que vous alliez à Cahors à pied. Vous voyez, il y en a qui ne savent pas où c'est Cahors. Cahors, c'est très simple, c'est la même direction que Jésus a pris. Quand il est parti de Jérusalem, il allait au nord. Vous partez de Toulouse en direction du nord, en allant vers Paris, si vous voulez, et vous faites une centaine de kilomètres à pied, à peu près, et là, vous tombez sur Cahors. Mais Jésus, lui, s'est arrêté en chemin, moitié chemin, c'est, on va dire, Montauban, à peu près. Vous allez jusqu'à Montauban à pied, vous allez voir, vous allez commencer à comprendre la fatigue que Jésus ressentait. Parce qu'en plus, à l'époque, les routes, c'était pas les routes d'aujourd'hui. Et Jésus, donc, il est fatigué par la route. Et ce qu'il fait, c'est qu'il est assis, il attend le repas que ses disciples sont allés chercher en ville, parce qu'il est la sixième heure, c'est-à-dire midi. Il est midi, et à midi, on sait que le soleil il tape, on sait que le ventre il commence à remuer, toutes ces choses, et il est assis, il attend le repas que ses disciples sont allés lui chercher en ville. Et comme il est en plein soleil, il a soif. Et il voit qu'il y a une femme qui est là, et bizarrement, cette femme, elle vient puiser de l'eau à l'heure la plus chaude de la journée. Alors que la plupart des personnes, ils viennent soit très tôt le matin, soit très tard le soir, justement au moment où il n'y a pas de soleil. Cette femme, elle vient à l'heure la pire de la journée pour éviter de rencontrer sûrement d'autres personnes. Et Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il ose établir ce contact, il ose aller à sa rencontre justement de cette femme, sans tenir compte de toutes ces choses qui sont là, de tous ces clichés, de tous ces sous-entendus qui sont là. Il va à sa rencontre et il lui demande, et là le verbe demander, ça traduit pas bien l'idée, c'est il prie, il lui demande avec insistance, il faudrait dire. Il demande avec insistance, il réclame à boire à la Samaritaine. Il réclame à boire. Il se permet de le faire. Et je voudrais simplement dire qu'aujourd'hui encore, Dieu demande quelque chose. Dieu a soif de quelque chose. Dieu nous demande, il ne nous demande pas à boire. Il ne nous dit pas « donne-moi à boire », mais il nous dit « mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur ». Ça, c'est la parole de Dieu qui est pour aujourd'hui. Mais on va voir qu'après cette rencontre qui est là, il y a toute une série de paroles qu'on a lues, et il y a cette parole centrale qui dit « si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « donne-moi à boire » ?» C'est-à-dire qu'il y a cette rencontre qui s'est faite, il y a ce don de Dieu qui a été mis en exergue, mais maintenant il y a quelque chose qui se passe à ce moment-là. Et il y a un rétablissement, j'ai dit ça comme ça, il y a un rétablissement, ou plus précisément, il y a un renversement des rôles. Jésus, c'était la personne qui avait soif. Jésus, c'était la personne qui était fatiguée. Et à ce moment-là, tout s'inverse. Les rôles s'inversent. À ce moment-là, En quelques phrases, en quelques mots, Jésus, il nous révèle, il révèle à cette femme que la personne qui a besoin de boire, c'est elle. Il révèle en quelques mots, et alors c'est plus de manière physique, mais Jésus passe au domaine spirituel. En quelques phrases, Jésus a cette capacité, en quelques mots, de nous dire, de nous transporter du domaine matériel au domaine spirituel. Et on voit tout de suite que la situation inverse, la femme samaritaine, c'est, on se rend compte qu'elle est fatiguée par le voyage de la vie. Et combien de personnes, encore aujourd'hui, peuvent être fatiguées par le voyage de la vie ? Peuvent être fatigués par les rencontres qu'ils ont faites, peuvent être fatigués par les épreuves qu'ils ont subies, peuvent être fatigués par toutes sortes de choses. Le voyage de la vie, les routes à l'époque, il y avait des cailloux, il y avait des brigands, il y avait toutes sortes de choses. Et la vie est comparée à un voyage. Et les gens, aujourd'hui encore, il suffit qu'on allume la télévision, se rend compte qu'il y a beaucoup de personnes qui sont fatiguées par la vie. Elle est assoiffée de changement, de stabilité. On voit que sa vie entière, elle a sauté de mari en mari. Elle a eu 5 maris, vous imaginez quand même ? On va penser que c'est quelque chose d'avant-gardiste pour l'époque. Elle a eu 5 maris. Aujourd'hui, ça, c'est plus choquant, ça arrive. Quoique c'est pas quelque chose de courant quand même. Mais déjà à l'époque, elle a eu 5 maris et elle était en concubinage avec un sixième homme. Est-ce que vous ne pensez pas qu'elle a soif, cette femme, de stabilité ? Et justement, elle a soif de quelque chose qui dure. Et justement, qu'elle n'est pas mariée parce qu'elle a peur que le passé se reproduise à nouveau. Elle a peur que le passé ressurgisse, que ce mariage, cette relation qui est là, du moins, du moment que ça va se transformer en mariage, ça va casser. Combien de gens ont peur du mariage aujourd'hui ? Combien de gens préfèrent que le mariage aille à d'autres personnes qui le revendiquent ? Parce que eux, ils ont peur de s'engager, ils ont peur de cette stabilité. Parce qu'ils savent que s'ils ne dépendent que de leur force, eh bien, au bout d'un moment, ça va casser. Et c'est quelque chose de vrai. Mais cette femme, elle a une bonne attitude, c'est-à-dire que quand elle comprend, du moins elle commence à comprendre ce que Jésus veut lui dire, quand Jésus lui parle de cette eau vive, qui pourrait abreuver son cœur, elle lui demande, « Seigneur, donne-moi de cette eau. » Et même si elle lui demande, en se trompant, en formulant mal, elle lui demande, même la première chose qu'elle lui demande, c'est de manière physique, « Seigneur, donne-moi de cette eau, que je ne vienne plus puiser ici. » Est-ce que Jésus s'est mis à rigoler et lui a dit, « Mais t'as rien compris, ma pauvre. » Non, parce que Jésus, il a un cœur d'amour pour les personnes. Et il a un cœur d'amour pour cette femme. Et quand elle lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser, Jésus, il appuie à l'endroit où ça fait mal. Il lui dit, va chercher ton mari. Et Jésus, il est en train de lui prouver à ce moment-là qu'il connaît parfaitement sa vie. Et Jésus, ce soir, il connaît parfaitement la vie de chacun d'entre nous. Il connaît parfaitement les étapes de notre vie, il connaît nos circonstances, il connaît le contexte dans lequel on est, il connaît toutes les choses qui sont en arrière-plan de nos vies. Jésus connaît parfaitement, il connaît même les pensées de nos cœurs, il connaît même les paroles, les pensées qui sont en train de surgir dans votre esprit en ce moment même. Parce que Jésus, il est omniscient. Et on voit que de Jésus qui avait soif, c'est maintenant elle qui a soif. C'est maintenant elle qui demande à boire. Et Jésus, qu'est-ce qu'il fait ? Maintenant qu'il a inversé le rôle, bien sûr, il a toujours la soif physique, mais il a une priorité qui est là devant lui, c'est de venir en aide à cette personne. Et qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, qu'est-ce qu'il a particulièrement ? Jésus, il lui dit, viens à moi, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je vais lui donner n'aura jamais soif. Jésus, il lui dit que lui, il a accès à cette eau vive, à cette eau qui peut abreuver sa vie, qui peut lui faire du bien dans son âme. L'eau vive, ça nous parle de quoi ? Ça nous parle de quelque chose qui est vivant. Et je dirais l'inverse de l'eau vive, c'est l'eau stagnante. Jésus lui propose d'avoir une eau vive dans sa vie, quelque chose de nouveau, un renouvellement, un rafraîchissement. Jésus lui propose de laisser tomber cette stagnation dans son cœur, de laisser tomber les toiles d'araignée qui sont là et qui commencent à grouiller au fur et à mesure que les années passent. Jésus, il lui dit, bois de cette eau vive. Moi, je suis capable de donner à ton âme la vie. L'eau, il nous est dit qu'elle... Alors, je vais le lire parce que sinon je vais me tromper. C'est une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. L'eau que Jésus propose, elle a une portée éternelle. C'est-à-dire que toutes les fois qu'on vient à Jésus, on peut puiser à Jésus. Parce qu'il y aura toujours de l'eau. Toutes les fois qu'on vient dans la présence de Dieu et qu'on dit « Seigneur, j'ai besoin de cette eau vive pour rafraîchir mon cœur. » Alors toutes les fois qu'on fait cette prière, Jésus peut répondre à cette prière. Parce qu'il nous a dit qu'elle jaillira jusque dans la vie éternelle. Et cette eau, elle apporte la vie. Elle est vive parce qu'elle apporte la vie aussi. Mais cette eau, elle va jusque dans la vie éternelle. Elle a une portée éternelle pour nos vies. Jésus, il a le moyen d'accéder à cette eau. Deuxième chose, il est le seul moyen de puiser cette eau vive. Et là, je voudrais revenir à cette chose que j'ai dit tout à l'heure, le puits de Jacob. Cette femme, elle avait à sa disposition le puits de Jacob. Jésus, lui, il a à sa disposition les sources d'eau, parce qu'il faut savoir que source et puits, c'est à peu près le même mot. Et Jésus, lui, a à sa disposition le puits divin, les sources divines. Ces sources qu'aucun homme ne peut apporter. Et il faut savoir, et je l'ai dit, que le seul moyen de puiser dans ces sources d'eau divine, c'est de passer par Jésus, de se cacher en Jésus, d'accepter de croire en Jésus. Pourquoi ? Parce que si le puits de Jacob, il était profond, il faut savoir que le puits de Dieu, il est profond aussi. Et qu'aucun homme par lui-même ne peut accéder à ce puits-là. Aucun homme par lui-même ne peut puiser à ce puits-là. Pourquoi ? Parce que le péché sépare l'homme de Dieu. Parce que le péché met une distance. Les fautes de l'homme, le fait que l'homme n'est pas pur, le fait que l'homme fait le mal, ça met une distance. Ça crée une profondeur, je dirais même que c'est proportionnel. La profondeur du puits de Dieu, elle est proportionnelle au péché de l'homme. Et plus un homme va pécher, plus il va s'éloigner de Dieu. D'ailleurs, il y a ce verset, je le lis pour vous dans Isaïe 59. « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour vous sauver, ni son oreille trop dure pour vous entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Voilà pourquoi le puits est profond. Le puits de Dieu est profond. Voilà pourquoi on a besoin de quelqu'un, d'un intermédiaire pour aller puiser à ce puits. Et l'intermédiaire, je l'ai dit, c'est Jésus, parce qu'il y a ce verset que je lis pour vous également. Il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Jésus-Christ est le seul moyen d'accéder au puits divin. Jésus-Christ est le seul moyen d'aller puiser ce que le péché ne nous permet pas de faire. Au contraire, le péché nous éloigne de ce puits. Jésus-Christ est le seul moyen par lequel nous puissions puiser et accéder aux réserves, j'arrive au troisième point, aux réserves que Dieu a pour l'homme. Dieu a donné à l'homme toutes sortes de choses. Et le don de Dieu, il consiste en toutes sortes de réserves divines et bonnes et des bénédictions que Dieu a préparées d'avance. Et Dieu, il est dit que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Dieu, il a préparé tout un trésor, il a déjà donné toutes sortes de choses. Il a déjà accompli toute l'œuvre. Jésus-Christ, il a déjà fait tout ce qu'il fallait. Et d'ailleurs, il a dit, tout est accompli. Mais tout est déjà fait. Maintenant que les réserves sont là, il ne tient qu'à nous, plutôt, à épuiser. Le don de Dieu, c'est ce puits. Le don de Dieu, c'est cette source d'eau vive que Dieu donne à l'homme et qui contient toutes sortes de grâces. Et j'aimerais simplement, ce soir, vous énumérer les grâces que Dieu nous a déjà données et qu'il nous suffit de saisir par la foi. Première grâce, le salut. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Le salut est un don de Dieu. Le pouvoir de devenir enfant de Dieu est un don de Dieu aussi. À tous ceux qui l'ont reçu, qui ont reçu la lumière, qui ont reçu Jésus-Christ dans leur cœur, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la chair de l'homme, ni de l'homme, mais de Dieu. Troisième réserve, je dirais, que Dieu a pour nous que Dieu nous a donné la connaissance des mystères du royaume de Dieu. Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. À qui Jésus dit-il ça? Il dit ça à ses disciples. Et qu'est-ce qu'ils avaient de particulier, ces disciples, par rapport aux autres hommes? Ces disciples, ils étaient venus vers Jésus pour avoir l'explication. Parce que Jésus, il parlait souvent en parabole aux gens. Et les disciples étaient les seuls qui venaient vers Jésus et qui disaient, Seigneur, mais explique-nous, maître, explique-nous ces paraboles, on ne comprend pas, nous. Les autres personnes, ils n'avaient pas compris peut-être non plus, mais ils n'étaient pas venus vers Jésus. Et Dieu, il nous a dit qu'il nous a donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Voilà encore un aspect du don de Dieu. Une consolation éternelle et une bonne espérance. Dieu, notre Père, nous a aimés et nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance. Dieu nous donne l'espérance qu'un jour, nos yeux le verront, qu'après cette mort physique qu'on va avoir, à moins qu'il ne revienne avant, on a cette certitude qu'un jour, nos yeux le verront, qu'on sera avec lui dans son ciel de gloire, et on a cette espérance en lui, et du coup, on n'a pas la peur de la mort qui est là. Et combien de personnes, aujourd'hui encore, ont peur de la mort, n'ont aucune certitude. Alors qu'on était au week-end Bonne Nouvelle à Hoche, on a eu l'occasion de discuter avec certaines personnes, et quand on leur posait cette question, qu'est-ce que vous croyez qu'il y a après la mort? Combien, je dirais 99% des personnes, ils disaient, j'en ai aucune idée. J'aimerais penser qu'il y a quelque chose d'autre après la mort, mais j'en ai aucune idée. Combien de personnes dans ce monde, ils n'ont aucune idée de ce qu'il y a après la mort? La Bible nous dit qu'après la mort, il y a soit le paradis, soit l'enfer. Et qu'en fonction de comment on aura réagi avec Jésus, en fonction de la prière qu'on aura faite à Jésus, en fonction de notre foi qu'on aura placée en lui, on ira à soit dans le paradis, soit dans l'enfer, si on ne fait pas cette prière justement. Mais nous avons cette espérance, Dieu nous a donné cette espérance, et nous qui croyons en Jésus, nous qui nous abreuvons, nous qui venons puiser aux sources du salut, nous avons cette espérance que nos yeux le verront un jour. Nous avons la paix, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, est tombé sur Jésus. Jésus s'est donné à la croix pour nos péchés, et le châtiment que nous méritions, mais qui nous donne la paix avec Dieu, il est tombé sur lui. Dieu nous a donné sa paix. Il nous a donné sa paix du moment qu'on accepte que c'est notre châtiment que Jésus a pris. Et maintenant nous avons cette paix, alors que le monde peut trembler, alors que le monde peut être dans la guerre, nous gardons la paix. Parce que nous avons cette paix divine, cette paix qui vient du ciel, cette paix qui vient de la profondeur de la présence de Dieu. Nous avons la vie éternelle. Et voici le témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Dieu nous a donné la vie éternelle par Jésus-Christ. D'ailleurs, il est dit que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Et la dernière chose, il y en aurait tellement d'autres à dire, mais je ne voudrais pas vous embêter ce soir plus. Romains 5, 17 nous dit, « Si par l'offense d'un seul, et il est question d'Adam, le péché d'Adam, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul ?» Dieu nous propose, Dieu nous donne de régner dans la vie par le don de la justice, par le fait que nous n'avons aucune justice de nous-mêmes, mais que c'est un cadeau de Dieu. La justice est un cadeau de Dieu. C'est un trésor de Dieu que nous pouvons obtenir en Jésus-Christ. Lui était parfaitement juste, lui était parfaitement saint, lui était parfaitement pur, et il a été fait péché, condamné, mis à mort pour que nous soyons justifiés. La Bible nous dit que même du moment qu'il a été fait péché, nous sommes devenus nous-mêmes justice de Dieu. Et le mot est fort. Est-ce que vous vous considérez comme justice de Dieu? Pourtant, c'est les promesses bibliques. Ce soir, je voudrais terminer avec ce verset. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Mais le seul moyen de venir puiser à ce ruisseau, le seul moyen de venir puiser à ce puits, à cette source divine, c'est de passer par Jésus-Christ. C'est d'avoir cette rencontre avec Jésus-Christ, non seulement d'avoir cette rencontre, d'être titillé dans notre esprit, je dirais, mais plus que ça, plus que d'être touché, c'est d'être totalement chamboulé en nous-mêmes, métamorphosé en nous-mêmes, de sorte que Dieu puisse rétablir les bonnes relations, que Jésus ne soit plus celui qui est soif, et que nous soyons la personne qui va lui apporter quelque chose, mais qu'au contraire, c'est l'inverse qui va se passer. C'est Jésus-Christ qui va reprendre sa place. C'est lui qui va nous apporter cette eau vive. Et nous, nous allons être ces personnes qui demandons, Seigneur, donne-moi à boire, que je n'ai plus à puiser. Puiser autour de moi, puiser dans toutes ces sortes de passions, puiser dans toutes ces sortes d'occupations, ces soucis de la vie, ces excès du manger et du boire qui occupent mon esprit et qui m'amènent à être vide et à être constamment assoiffé et constamment affamé de toutes sortes de choses, qui m'amènent à ne pas connaître justement toutes ces promesses que tu as prévues pour moi, le salut, à ne pas avoir cette espérance, pas avoir de consolation éternelle, pas avoir la paix. Seigneur, moi je vais puiser à tes trésors, je vais puiser dans tes réserves à toi. Et je sais que si je place ma foi en toi, alors tu vas le faire. Tout simplement parce que tu m'aimes. Ce soir, Dieu appelle quelqu'un qui est fatigué par la vie. Quelqu'un qui est lassé peut-être des traditions. Quelqu'un qui est assoiffé de changement. Je dirais même plus assoiffé de transformation. Parce que changer, on a l'impression que c'est quelque chose de petit, mais la transformation, c'est quelque chose de radical. Et Dieu, il veut faire une transformation en nous. Dieu nous appelle à le rencontrer. Dieu appelle quelqu'un peut-être ce soir à venir à sa rencontre. Dieu appelle quelqu'un à venir puiser dans cette source que Jésus propose, qui est en Jésus. Il vous appelle à goûter, à vous saisir de ces réserves que Dieu a prévues pour vous. Et la seule chose que nous ayons à faire, la seule chose que tu peux faire, c'est de croire en Jésus. C'est de mettre ta foi en Jésus. Et souvent on croit que la foi c'est un espèce de pouvoir surnaturel que certains ils ont et d'autres n'ont pas, et que certains ils ont plus de foi que d'autres. La foi c'est simplement un choix que tu fais, le choix d'obéir, le choix de te confier en Dieu. Et la plupart des hommes, enfin je dirais même tous les hommes ont la foi, ils ont la foi en quelque chose, mais tous les hommes n'ont pas la foi en Dieu. Tous les hommes ne placent pas leur foi en Dieu. Ils placent leur foi en leur argent. Ils placent leur foi, comme cette femme, dans les traditions, dans les choses qu'ils connaissent même pas. Alors que Dieu nous appelle à être des adorateurs en esprit et en vérité. Des personnes qui sont conscientes de ce qu'ils font. Dieu ne veut pas une adoration en surface. Dieu veut une adoration avec sincérité. Dieu ne veut pas une adoration en apparence. Il veut une adoration avec ardeur. Dieu ne veut pas une adoration comme un devoir religieux. Il veut une adoration comme un dévouement réel. Dieu ne veut pas une adoration vide, mais il veut une adoration vraie. Et comment aujourd'hui on peut adorer le Seigneur? Comment aujourd'hui on peut arriver à cette adoration que le Père demande? Eh bien c'est quand je ne choisis de pas aller à un endroit où je sais que ça va me faire du mal. Quand j'éteins ma télévision parce qu'il y a des images mauvaises, je suis en train d'adorer Dieu. Quand je retiens mes paroles parce que je sais que je vais dire une parole mauvaise et que je me retiens, j'essaie d'obéir à mon Dieu, je suis en train d'adorer Dieu. L'adoration, c'est plus que les chants. L'adoration, c'est plus qu'un moment de prière. L'adoration, c'est un état d'esprit. L'adoration, c'est un choix. C'est une décision. C'est la volonté qui choisit de faire le bien. C'est ça l'adoration que le Père demande. L'adoration en esprit et en vérité. C'est ça l'adoration que le Père demande. Et combien, chacun d'entre nous, en a besoin de progresser. Et moi, le premier. Mais je sais que c'est ça l'adoration que le Père demande. Je sais que c'est ça qui donne accès à toutes les réserves. Et que du moment que je vais me cacher en Christ, du moment que je vais accepter de me cacher derrière lui, de me cacher derrière son œuvre, de saisir par la foi cette réalité qu'il s'est donnée pour moi, eh bien je vais pouvoir accéder à toutes ces grâces. Que le Seigneur soit béni. Amen. Merci pour ta parole, Jésus. Merci. Merci pour le puits illimité que nous avons en toi, Seigneur. Merci pour l'œuvre de la croix, parce que nous pouvons puiser en toi. Seigneur, nous voulons te demander de bénir chaque personne dans ce lieu. Que ton esprit puisse saisir nos cœurs, Seigneur. Que ton esprit puisse nous renouveler. Tu vois ceux qui te connaissent déjà, Seigneur, qu'ils puissent être renouvelés, rafraîchis dans ta présence. Tu nous as dit que tes eaux étaient des eaux vives. Seigneur, tu nous as dit que nous pouvions puiser continuellement à ces eaux. Tu nous as dit que c'était des eaux éternelles. On n'a pas besoin de faire de réserve dans ta présence, Seigneur, mais jour après jour, on peut venir puiser librement et tu nous renouvelles, tu nous rafraîchis. Merci de bénir aussi ces personnes qui ne te connaissent pas peut-être, qui n'ont pas fait cette rencontre avec toi et qui ce soir ont entendu ce message d'amour, ce message de paix, ces promesses, tous ces cadeaux, tout ce don de Dieu que tu as fait aux hommes déjà par avance, Seigneur. Et il suffit pour eux qu'ils placent leur foi en toi,
pour pouvoir saisir toutes ces bénédictions. Seigneur, je te demande de les bénir particulièrement. Je te demande de travailler leur cœur par ton esprit. Je te demande, Seigneur, de les aider à rétablir l'ordre des choses en eux-mêmes, Seigneur, à te remettre à la bonne place, à la juste place dans leur cœur, Seigneur, afin qu'ils puissent accéder à ces bénédictions, Seigneur. Que ton nom soit béni. Amen. Amen.